Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1 dans ce 5h-6h30.
Et il disait qu'un bon batteur, c'est quelqu'un qui a du swing et qui peut vous faire danser. Voilà les mots de Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones, disparu hier à l'âge de 80 ans.
On va lui rendre hommage dans cette matinale, dans nos journaux et dans votre partition à 6h20. Omblin, l'histoire du moins rock'n'roll des Stones, on pourrait dire, et pourtant colonne vertébrale du groupe. Nous sommes le mercredi 25 août et j'espère que vous allez bien, que vous alliez au travail ou que vous en reveniez. On est là pour vous accompagner et vous informer.
Et avec cette question à la une ce matin, à quand remonte votre dernier don du sang ?
Les stocks sont au plus bas en cette rentrée. C'est en fait une double pénurie, manque de donneurs et manque de personnel pour prélever, réquisitionner pour tester et vacciner. On en parlera à 6h10 avec le directeur de la collecte à l'établissement français du sang. Avant cela, Omblin, votre interview à 5h40.
Eh bien, je me suis intéressé au distributeur automatique alimentaire qui se développe de plus en plus en région. Vous savez, ce sont ces petites cabines de quelques mètres carrés à peine hein, et qui nous permettent d'acheter notre pain, nos légumes et même une pizza toute chaude.
Est-ce la mort annoncée des petits commerces de nos villages ou au contraire un moyen de les redynamiser ? Ces questions, eh bien, Omblin, vous les poserez à votre invité Pascale Hébel, la directrice du pôle consommation au Crédoc.
Et puis mercredi, c'est cinéma. Hein, on sait par cœur les sorties de la semaine et les coups de cœur de notre spécialiste ciné, Laurie Cholewa. Ce sera à la prescription culture à 6h moins le quart.
Voilà pour le programme, on ne vous a pas tout dit, il y a encore quelques surprises jusqu'à 6h30. Excellent réveil à tous sur Europe 1.
Et la météo, c'est avec Anissa Haddadi. Bonjour Anissa.
Oh, bonjour Omblin, bonjour Julien.
Une journée globalement bien ensoleillée.
Oui, allez, c'est reparti. Là, on a une belle journée, comme hier. Alors, on a quelques grisailles hein, ce matin, des entrées maritimes du côté du Cotentin ou encore des Côtes d'Armor, mais rien de très inquiétant. Ces grisailles vont se lever, ces nuages bas vont se dissiper. La matinée sera bien ensoleillée partout. Cet après-midi, alors ça va se gâter, mais uniquement sur les reliefs corses, pyrénéens et alpins, du côté du vent. Alors, il souffle encore. Vous savez qu'hier, on avait ce vent de nord-est qu'on appelle la bise. Vous l'avez peut-être senti hier après-midi sur la moitié nord. Bah, il sera encore là cet après-midi. Et dans le sud, bonne nouvelle, le Mistral va se calmer. Il souffle encore ce matin et disparaît cet après-midi. Alors, côté température, il n'y a aucun changement, tellement pas de changement que j'ai cru que c'était les températures d'hier. Donc, vous pouvez vous habiller aujourd'hui comme hier, nous aurons 9 à 20 degrés ce matin, 9 à Montluçon, 12 à Lille et Clermont-Ferrand, 14 à Paris, 15 à Bordeaux et 20 à Nice. Et cet après-midi, 20 à 31 degrés du nord au sud.
Merci beaucoup Anissa Haddadi, on vous retrouve dans une petite demi-heure. Mais avant, c'est le premier journal de cette matinale. Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Nous sommes tombés d'accord pour continuer à coopérer de très près pour l'évacuation de tout le monde en toute sécurité. Et nous sommes actuellement sur les rails pour finir le 31 août.
31 août, date butoir confirmée par Joe Biden, le président américain, pour le retrait définitif des troupes américaines en Afghanistan. Il ne reste que quelques jours aux Occidentaux pour évacuer leurs ressortissants et les Afghans menacés par les talibans. Garde à vue prolongée pour le ressortissant afghan exfiltré par la France et soupçonné d'être proche des talibans. Dans ce journal, témoignage d'un Français d'origine afghane qui avait repéré à Kaboul son comportement suspect. Une troisième dose de vaccin dès septembre pour les plus de 65 ans et les personnes les plus fragiles. La Haute Autorité de Santé confirme l'abaissement du seuil d'éligibilité. La petite annonce du jour, viticulteurs cherchent vendangeurs. Cela se passe en Alsace, les candidats sont les bienvenus. Et puis la mort d'un monument du rock, Charlie Watts, batteur des Rolling Stones, est décédé hier à l'âge de 80 ans. Portrait de ce dandy qui a toujours jugé ridicule le triptyque sexe, drogue et rock'n'roll. Et le journal de 5h vous est présenté par Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous. C'est donc confirmé, les États-Unis auront définitivement quitté l'Afghanistan mardi prochain le 31 août, ce qui signifie que les Occidentaux et notamment la France n'ont plus que quelques jours pour évacuer leurs ressortissants et les Afghans qui sont menacés par le retour des talibans au pouvoir. Le président américain Joe Biden évoque une menace croissante d'une attaque du groupe État islamique pour justifier ce retrait. Les alliés des États-Unis, notamment européens, avaient demandé davantage de temps au président américain hier lors d'un sommet virtuel du G7 pour poursuivre ces mêmes évacuations. Mais Joe Biden n'a finalement pas plié, Alexis Guilleux.
Oui, c'est la stratégie du président américain. Il s'en tient à cette date du 31 août, mardi prochain, pour faire partir toutes les troupes américaines d'Afghanistan, celles qui sécurisent actuellement l'aéroport de Kaboul. Joe Biden pointe le risque croissant d'attaques terroristes. Nous sommes en voie d'achever notre opération d'ici le 31 août. Plus tôt nous aurons terminé, mieux ce sera. Nous savons que le groupe État islamique cherche à viser l'aéroport pour attaquer les forces américaines, alliées et des civils innocents. Joe Biden s'est présenté avec plus de 5 heures de retard à cette allocution, signe de l'intense pression que subit la Maison-Blanche. Il a tout de même demandé au Pentagone de préparer des plans de secours au cas où le maintien des troupes s'avère nécessaire. Alors malgré ces désaccords sur le calendrier des évacuations, les membres du G7 ont tout de même affiché leur unité concernant leurs relations à venir avec les talibans.
None of us are going to take the Taliban's word for it. We'll judge them by their actions.
Aucun de nous ne croira les talibans sur parole, nous les jugerons sur leurs actes, dit Joe Biden. De leur côté, les nouveaux maîtres de Kaboul craignent une fuite des cerveaux et demandent aux Occidentaux d'arrêter d'évacuer les Afghans qui ne peuvent désormais plus se rendre à l'aéroport.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 à New York. Au total, ce sont 70 000 personnes qui ont été évacuées d'Afghanistan depuis maintenant une dizaine de jours.
Europe 1 vous le révélait hier matin, le placement en garde à vue du rapatrié afghan soupçonné d'être proche des talibans, garde à vue qui a été prolongée hier soir.
Et ce matin, un témoignage Europe 1, celui d'un Français d'origine afghane qui était présent lors des opérations d'exfiltration à Kaboul et qui avait repéré cet homme au comportement, disons, suspect. Mustapha Mouhamad s'est confié au micro de Maximilien Carlier.
Cette personne, je l'ai vue puisqu'il venait pour négocier. C'est à lui qu'on disait il faut laisser entrer telle personne ou les gens qui étaient sur la liste pour pouvoir entrer à l'ambassade aussi. Donc c'était lui qui les faisait entrer et vérifier leur identité lors du checkpoint. Après, lors de notre exfiltration depuis l'ambassade jusqu'à l'aéroport, il est monté dans un des véhicules pour pouvoir entrer à l'aéroport comme tout le monde. À l'approche de l'aéroport, il a rendu son arme à ses amis, à ses collègues, et il est monté comme si de rien n'était, il est rentré à l'intérieur. Pendant le voyage, il se cachait un peu derrière son foulard, il était discret. Je l'ai signalé lors de notre escale à Abu Dhabi. À ce moment-là, j'ai profité de l'occasion pour parler de cette personne parce que j'étais sûr et certain et que pour moi, c'était pas normal qu'il fasse partie du voyage, qu'il se rende en France.
Mustapha Mouhamad, français d'origine afghane, donc des propos recueillis par Maximilien Carlier.
Le vaccin anti-Covid, les contours de la campagne pour une troisième dose se précisent. Ce sont potentiellement 18 millions de Français qui pourraient être concernés.
Effectivement, la Haute Autorité de Santé a confirmé ce que Olivier Véran, le ministre de la Santé, laissait entendre lundi soir. Une troisième dose qui sera dès septembre proposée aux plus de 65 ans, Damien Maistre.
Eh bien, la Haute Autorité recommande que cette troisième dose soit injectée à toutes les personnes de plus de 65 ans, alors que jusqu'à présent, l'exécutif envisageait un rappel à partir de 80 seulement. En plus de ce critère d'âge, la troisième dose sera également proposée à tous ceux qui souffrent de comorbidité, maladie chronique, obésité, tous ceux qui sont les plus à risque de faire des formes graves de la maladie. L'idée pour la Haute Autorité, c'est en fait de calquer cette campagne de rappel sur celle du vaccin hivernal contre la grippe, en ciblant en fait les mêmes personnes et en injectant, pourquoi pas, les deux vaccins lors d'un même rendez-vous. Cela fait donc du monde, en tout près de 18 millions de personnes qui sont concernées par ce rappel. Forcément, il va falloir y aller progressivement. Dans un premier temps, ce sont les résidents d'EHPAD et les personnes très à risque qui pourront bénéficier d'injections dès le début du mois de septembre. Viendront ensuite les autres publics, petit à petit, avec potentiellement, à terme, une troisième dose pour toute la population, sans distinction. Ça sera probablement nécessaire dans les prochains mois, indique la Haute Autorité, même s'il est encore bien trop tôt pour l'envisager.
Les explications de Damien Maistre. Notez que les rendez-vous pour cette troisième dose pourront être pris dès lundi prochain. J'ajoute que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, n'exclut pas de rendre la vaccination obligatoire pour les policiers au contact du public si le taux de vaccination générale dans la police n'atteint pas les 90%.
Nous sommes à la fin du mois d'août, le 25 précisément, et la période des vendanges commence dans certaines régions viticoles.
Et en Alsace, les conditions météo ont pourtant retardé ces vendanges et on cherche des bras pour la récolte des raisins de Riesling, de Gewürztraminer ou encore du Pinot Blanc. Et Pôle emploi met en place, comme tous les ans, un dispositif d'embauche de vendangeurs. Reportage Arthur Mbaché.
Coupeurs, porteurs, tractoristes, les agents de Pôle emploi à Colmar attendent vos appels. Alsace Vendange, bonjour.
Oui, bonjour, je veux bien vous contacter. J'ai vu votre offre sur Facebook pour comme quoi vous recherchiez des vendangeurs, des porteurs pour les vendanges.
Ok, j'ai un poste à vous proposer du coup. Alors je vous donne le nom de l'employeur.
Il y a 1500 postes à pourvoir.
Très bonne journée à vous.
Bonne journée, au revoir.
Alors, au revoir, merci.
Julie Delinde coordonne la cellule Alsace Vendange de Pôle emploi.
Par exemple, on a un candidat qui appelle qui habite à Rouffach. Et on voit donc autour de Rouffach toutes les offres qui ont été déposées par les viticulteurs. Et donc on lui dit, bah voilà, on a des besoins sur Pfaffenheim, sur Soultzmatt. En général, ils choisissent le lieu le plus proche géographiquement.
Parce qu'en Alsace, les vendangeurs, oui, en général, ne logent pas sur place.
Non, il y en a très peu qui sont logés sur place.
Début des vendanges, mi-septembre, 3 semaines plus tard que l'an dernier. Les viticulteurs savent que cette année, ils vont devoir faire sans une grande partie de la main-d'œuvre étudiante. Colmar, Arthur Henbaché, Europe.
Il était l'un des piliers des Rolling Stones. Le batteur Charlie Watts est mort hier à l'âge de 80 ans. On le savait malade. On garde l'image de ce dandy toujours tiré à quatre épingles. Et comme dans tout groupe de rock, c'était lui, avec le bassiste Bill Wyman, puis Daryl Jones un peu plus tard, qui assurait la rythmique. Le portrait de Charlie Watts avec Océane Théard.
Sur scène, on ne le remarquait pas tout de suite. Derrière les déhanchés de Mick Jagger, derrière les envolées électriques des guitaristes Keith Richards et Ronnie Wood, Charlie Watts, lui, se tient bien droit, chemise boutonnée jusqu'au cou, visage impassible. Le batteur n'aime pas tellement les solos ni les projecteurs. C'est ce qu'il explique dans une interview en 1993.
Bien sûr que c'est flatteur que certains me considèrent comme l'un des meilleurs batteurs du monde. C'est mieux que d'être le pire, mais ça me met mal à l'aise. Je suis comme ça, moi je me vois juste comme le membre d'un groupe.
Le truc de Charlie Watts, c'est le rythme binaire, ciselé. C'est un enfant du jazz, fan de Duke Ellington. Il a grandi dans le quartier londonien d'Islington. C'est là qu'il apprivoise la batterie, seul, à l'oreille, rien qu'en écoutant les musiciens des clubs de jazz de la ville. Il n'arrêtera jamais le jazz d'ailleurs, même après 1963, l'année où il rejoint un petit groupe sans prétention, les Rolling Stones. Celui qui a toujours ou presque une vie rangée, pas de drogue, pas d'excès, est aussi le premier des Stones à partir, sans pouvoir fêter sur scène, baguette à la main, les 60 ans de ce groupe mythique.
Les Rolling Stones, c'était Océane Théard.
Charlie Watts qui disait d'ailleurs que les Rolling Stones existeraient tant que Mick Jagger et Keith Richards seraient vivants.
C'est bien vrai. Deux mots de football pour terminer, Julien. Et cette information de nos confrères du Parisien ce matin. Le Real Madrid passe à l'offensive pour attirer Kylian Mbappé. Ah. Le club madrilène a proposé la somme de 160 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour recruter l'attaquant. Offre pour l'instant, je rassure les supporters du Paris Saint-Germain, pour l'instant refusé par le club de la capitale.
Pour l'instant seulement, hein, on va laisser planer le suspense. Merci beaucoup Lionel Gougelot. Prochain journal complet à 5h30.
Bonne journée.
Il est 5h10 sur Europe 1, l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 609, Histoire moderne. Cette magnifique pouliche, titulaire d'un pédigré classique, est dotée d'un bon potentiel, mais aussi d'une très forte personnalité. À la lecture de ses performances, elle souffle le chaud et le froid, mais je crois savoir qu'elle est actuellement bien lunée et très coopérative le matin à l'entraînement. Dès lors, elle devrait confirmer sans aucune difficulté sa dernière victoire obtenue avec désinvolture le 11 août à Saint-Malo. Alors notez bien pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1 dans la 6e course, le numéro 9, Histoire moderne.
Merci beaucoup Thierry Léger, on vous retrouve dans une petite demi-heure pour vos pronostics du Quintet.
Vous restez avec nous dans un instant, on va éplucher la presse, comme chaque matin, et extraire le meilleur, évidemment.
C'est le Pressing, notre concentré d'actu vitaminé Omblin, et c'est dans une minute sur Europe 1. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
5h12 sur Europe 1, c'est l'heure où les yeux ont un petit peu de mal généralement à s'ouvrir, voire qui piquent un peu, vous n'êtes pas seul, n'est-ce pas Omblin ?
Je vois pas du tout de quoi vous parlez.
Moi, je vois très bien.
On se couche très tôt. Alors, en tout cas, on va faire comme tout le monde. Vous, comme nous, on va se faire couler un très bon café noir, s'il vous plaît, pour moi. Et on va écouter ce qui va suivre. C'est le Pressing, les meilleurs articles à lire ce matin dans la presse.
Le PSG a sa MNM. Messi, Neymar, Mbappé. Eh bien, Europe 1 a son RPL. Roche Pierce et l'ange. Bonjour
mieux.
Martin.
Bonjour Julien, bonjour Robin, bonjour, bonjour à tous.
Vos articles dans un instant, mais avant jetons un œil aux unes. Le Figaro qui titre ce matin sur l'onde de choc du chaos afghan et ses multiples conséquences. Nouvelle donne régionale, menace de mouvements migratoires incontrôlés, évolution des rapports de force entre Washington et ses rivaux. Le Monde, écrit le Figaro, s'ajuste à la victoire des talibans. Primaire à droite, la clé Wauquiez, c'est le titre à la une de l'Opinion qui s'interroge. Le président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes va-t-il se lancer dans la course à la présidentielle? Laurent Wauquiez s'apprête en tout cas à dévoiler une réponse qui va configurer le jeu à droite. Enfin, notez cette très jolie une de Libération qui rend hommage au batteur des Rolling Stones décédé hier. Charlie Watts ne bat plus, titre Libé, avec comme illustration une photo en noir et blanc où l'on voit le musicien jeune tirer la langue de manière enfantine. Voilà pour les unes. Omblin, on reste avec Libération.
Oui. Alors, comment sont taillés vos jeans? Ah, mais c'est plutôt
oula,
large.
C'est quoi cette question?
C'est plutôt slim.
Non, mais c'est plutôt.
Cette mode.
Ouais, c'est plutôt droit.
Alors, je vais reprendre la question de Libé, telle qu'elle. Que s'est-il passé en à peine 5 ans pour que les coupes moulantes fassent leur comeback? Question absolument primordiale. Oui, parlons mode masculine ce matin. Figurez-vous que le pantalon bien coupé près du corps, c'est plus stylé. Voilà, c'est plus stylé qu'un baggy qui, il n'y a pas si longtemps que ça, était quand même top fashion. Alors, qu'est-ce qui dicte le bon goût? Les créateurs, certes, les clips de rap aussi, voilà, pour comprendre le swag. Hein, mes amis.
Les rappeurs mettent des jeans moulants maintenant.
Exactement.
Ah bon?
Mais, et pas que maintenant, hein, ça fait quand même quelques années. Il faut bien comprendre que le principe de la mode actuelle, c'est d'être en rupture avec la précédente. Oui, parce que les rappeurs en baggy, c'était il y a 15 ans, Julien.
Oui, mais.
Bref. Enfin... Alors la mode, c'est quand même un éternel recommencement.
Bloqué il y a 15 ans.
Vous inquiétez pas, les baggy reviendront. Le jogging, le jean ajusté ne sont pas l'antithèse de la virilité. Surtout, ils ne sont plus réservés à la gente féminine. D'ailleurs, on apprend qu'historiquement, les hommes sont les premiers à avoir porté des vêtements moulants. Au 14e siècle, ces messieurs sont adeptes du pourpoint. Alors qu'est-ce que le pourpoint? Ça couvre le haut du corps, c'est cette espèce de grande chemise hein, jusqu'en haut des fesses. Ça laisse apparaître les jambes. C'est ravissant.
Avec des collants, les jambes.
Voilà,
c'est ça,
des hommes en collant. Ouais. C'est la définition même du moulant. Des chausses, voilà, c'est collant, comme on les appelle, qui dessinent parfaitement bien les cuisses et pas seulement.
Oui.
Tout l'intérêt du collant. Alors que les femmes, elles, ont les jambes couvertes avec de longues jupes encombrantes. Ouais, c'est toujours très injuste.
Pour des questions de religion, de pudeur, des mœurs de l'époque.
Hélas, c'est pas très pratique pour courir quand même. Le pantalon moulant revient un emblème de l'élégance masculine au 19e siècle. Dans Un tramway nommé Désir, film de 1951, les t-shirts et jeans de Marlon Brando sont si serrés que les femmes s'évanouissent sur son passage. Un jean retaillé au maximum par son habilleuse pour mettre en valeur le fessier, bien sûr. On garde tous en tête un souvenir ému de John Travolta dans Saturday Night Fever. Pantalon alors évasé jusqu'au niveau des talonnettes, c'est vrai.
Vos yeux viennent de s'illuminer.
Et oui, le moulant en 2021 dépasse quand même, et il faut le préciser, la notion même de mode apparaît aussi comme une revendication, celle de son corps et le désir de ne pas être entravé, femme comme homme d'ailleurs. Ils sont fous du moulant, c'est dans Libération. C'est savoureux,
passionnant. Bon, eh ben écoutez, merci beaucoup Omblin.
On apprend des choses.
Je vais aller faire des courses alors en sortant de ce studio.
Hein,
on va changer la garde-robe, hein,
voilà,
visiblement pas
compris.
Assez ajusté.
Le pourpoint et le collant.
Oui. Je suis pas sûr qu'ils aient ça en stock.
Il y a des très belles photos dans Libération.
Merci, Omblin.
Ça vous irait très bien, je pense, Julien.
Oh, j'adorerais.
Allez, qu'est-ce on passe à vous, Martin, avant de raconter des âneries. Quel article vous a inspiré ce matin?
Alors, est-ce que vous avez déjà rêvé de discuter avec un mort, Omblin, Julien?
Alors, ça dépend quel mort.
Écoutez, les souvenirs d'une star
Johnny
décédée.
Cash,
oui, par exemple. Oui, oui, bien
j'aimerais
sûr.
Beaucoup avoir une discussion avec Johnny
avec
Cash.
Avec Johnny Cash.
Eh bien, Thierry Ardisson va réaliser ce fantasme dans sa nouvelle émission. Ça s'appelle L'Hôtel du Temps.
D'accord.
Et grâce à des effets spéciaux, l'ancien présentateur de Tout le monde en parle va redonner vie à Jean Gabin, Coluche ou encore l'ancien président François Mitterrand.
Comment vivez-vous votre mort, monsieur le président?
Oh, ce n'est pas la mort qui est un grand souci. C'est de ne plus vivre.
Voilà, ça paraît oula, assez évident.
Ça a l'air assez dérangeant quand même, non?
Ouais, j'imagine. Alors pour l'instant, on a vu que des extraits. Hein, ce que vous venez d'entendre, c'est la bande-annonce diffusée par France Télévisions. La date de diffusion, elle, n'a pas encore été dévoilée. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que ces stars défuntes vont reprendre vie dans un luxueux palace parisien, le Meurice. Vous entendrez ainsi la princesse Lady Di qui aurait bien aimé rencontrer un animateur d'Europe 1. Pas vous, Julien, je vous rassure.
Ah bon?
Bonjour, princesse.
I know, I'm not a furrow, but just call me Diana. Yeah, Stephen Van, is it?
Non. Non, Stéphane Bern n'aurait jamais commis cette erreur.
Voilà.
On lui passera le message.
Comment ce miracle est-il possible, hein? Comment ces hommes et ces femmes ressuscitent? Eh bien, grâce à la technologie du deepfake. Je ne sais pas si vous connaissez.
Du deepfake.
Du deepfake, c'est une technologie souvent décriée car utilisée sur Internet pour propager des fake news. Et il s'agit en fait de remplacer le visage d'une personne par une autre grâce à des millions d'images collectées par ailleurs, hein, notamment sur Internet. Il y aura donc des comédiens derrière ces morts, hein, des comédiens dont le visage sera modifié. Par exemple, c'est Yves Lecoq, hein, qui incarnera à l'écran François Mitterrand. Thierry Ardisson, hein, qui s'est confié aux Parisiens, explique qu'il avait déjà interviewé tout le monde. Il ne lui restait plus que les morts, hein, on reconnaît sa légendaire modestie. Oui. Mais du côté de France Télé, hein, on a beaucoup d'ambition pour ce programme qui vise à spectaculariser la culture. Hein, c'est les mots qu'a utilisé la direction hier lors de sa conférence de presse de rentrée. Cette technologie du deepfake intéresserait aussi certains musées ou encore l'éducation nationale.
Je me demande ce que pensent les héritiers.
Alors, je ne sais même pas si on leur a posé la question.
On verra les réactions tout à fait, après la diffusion.
Tout à fait. J'imagine qu'ils ont été quand même consultés.
Je le souhaite. Merci beaucoup Martin et on termine ce tour de table avec vous Julien.
Avec cette plongée en Absurdistan que nous offre ce matin le Figaro, l'impossible renvoi des 5 Afghans suspectés par Beauvau, c'est le titre de cet article qui décrit le casse-tête que va représenter l'éventuelle expulsion de ces hommes dont on a découvert trop tard qu'ils pourraient avoir des liens avec les talibans. L'un d'entre eux est d'ailleurs toujours en garde à vue, comme Europe 1 vous le révélait dès hier matin, pour avoir brisé l'une des obligations qui lui avait été imposée, se trouver chaque jour à une heure précise dans l'hôtel de banlieue où il réside. Et pour avoir enfreint cette consigne, l'intéressé encourt 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende, mais engager une procédure judiciaire, c'est en fait l'assurance de maintenir cet homme en France pour plusieurs années. Reste donc la solution de l'expulsion pure et simple d'un retour direct à Kaboul. Rien n'empêche effectivement le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de prendre un arrêté en ce sens. Sauf eh bien que ce n'est pas si simple, ce n'est plus si simple depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Car pour expulser un individu vers son pays d'origine, il faut un laissez-passer consulaire, en clair qu'il y ait un accord diplomatique. Impossible, vu que la France ne reconnaît pas le régime des talibans. Ces derniers n'ont d'ailleurs aucun intérêt à nous enlever cette épine du pied. L'autre problème dans le problème, c'est qu'en raison du retrait des troupes américaines d'Afghanistan programmé pour le 31 août, les rotations entre Kaboul et Paris vont s'arrêter demain soir. Autant dire que ces 5 Afghans suspectés d'être ou d'avoir soutenu les talibans, eh bien, ils vont très certainement pouvoir rester en France très longtemps. Voilà qui conclut le pressing du jour. Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour le Journal des Sports.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal permanent, c'est le rappel en temps réel de l'actu avec Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Omblin, bonjour à tous. Un géant tranquille, un homme élégant et un grand architecte de la musique. Les hommages à Charlie Watts se multiplient. Le batteur des Rolling Stones s'est éteint hier à l'âge de 80 ans. Face à la flambée de violence à Marseille, le garde des Sceaux promet des moyens supplémentaires. Éric Dupond-Moretti confirme l'envoi de magistrats dans la cité phocéenne. Joe Biden n'a rien lâché. Malgré la pression de ses alliés, il a confirmé hier le départ des troupes américaines d'Afghanistan d'ici au 31 août. Le locataire de la Maison-Blanche justifie sa décision par la menace croissante d'une attaque terroriste. Le Maroc regrette une décision unilatérale et injustifiée alors que sa voisine l'Algérie a décidé de rompre leurs relations diplomatiques. Enfin, plus de la moitié des personnes atteintes d'hypertension dans le monde ne prennent pas de traitement. Ça représente 720 millions de personnes et qui s'exposent ainsi à de graves problèmes cardiovasculaires.
Merci beaucoup Élise Dangean. Prochain journal à 5h30. Avec Christophe Lamarre.
Europe 1. Il est 5h20, très bon réveil à tous avec à présent les initiatives en France, la chronique qui nous met de bonne humeur en mettant en lumière celles et ceux qui s'engagent et on parle patrimoine ce matin, Julien.
Avec Amaury Gomard, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes le président de l'association Arcade, association qui doit faire sauter de joie notre ami Stéphane Bern, puisque vous proposez à des jeunes de passer leurs vacances à restaurer bénévolement notre patrimoine en souffrance. Comment vous est venue cette jolie idée ?
Alors c'est une idée qu'on a lancée avec un très bon ami, Augustin Latron. Voilà, on était tous les deux étudiants à l'époque, tous les deux amoureux du patrimoine. On avait envie de monter un projet qui ait du sens, qui puisse aider le plus grand monde et qu'on puisse proposer aussi d'abord à nos amis. En fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait proposer ça aussi à pas mal de jeunes. Et du coup, on a d'abord fait un premier chantier de restauration bénévole, mais avec des amis. On a vu que l'idée marchait bien et que les gens étaient intéressés. Donc on a tout de suite posé des statuts et plusieurs lieux maintenant nous demandent de venir les aider. On a pas mal de jeunes qui viennent sur les chantiers. Là, on en avait 230 pour notre deuxième été. Donc voilà, on sent qu'il y a un certain engouement pour le patrimoine.
Qui sont-ils, ces jeunes que vous emmenez sur ces chantiers, ces châteaux, églises ou encore moulins? Ils sont tous qualifiés pour rénover des vieilles pierres?
Pas du tout, et c'est là aussi un peu l'originalité du projet. C'est souvent, la plupart du temps, c'est des étudiants entre 18 et 25 ans, étudiants en grande ville, et qui font des études qui ont souvent rien à voir avec le bâtiment, mais qui veulent quand même apprendre, qui veulent quand même aider et mettre un peu la main à la pâte après peut-être une année dans les bouquins en amphithéâtre, et qui veulent sortir un peu au grand air et venir aider à leur manière en apprenant auprès soit du propriétaire qui s'y connaît, soit auprès d'un artisan, des techniques de restauration, de reconstruction, et pour pouvoir mettre un peu leur pierre à l'édifice.
Il y a vraiment beaucoup de jeunes qui sont prêts à troquer des vacances à la plage pour suer avec une pelle à vos côtés sur des chantiers?
Il y en a quand même quelques-uns, parce que voilà, on avait 115 dès la première année et on a 230, donc il y a une vraie augmentation. Les gens parlent autour d'eux, et après on essaye de vendre ces semaines-là aussi de manière un peu attirante pour que ça reste aussi un peu des vacances. Il y a aussi toute une dimension de visite de la région, de temps un peu plus de repos pour profiter aussi de sa semaine avec d'autres jeunes. Donc voilà, on essaye d'avoir le programme le plus attirant possible pour leur offrir quand même quelques jours de vacances, mais auprès du patrimoine et avec des vacances qui a un peu de sens, entre guillemets. Oui.
Comment ça se passe sur place? Vous êtes pris en charge? Vous dormez au camping? Comment ça se passe?
Alors, on est généralement logé sur place, directement sur le lieu. Donc, ça dépend des lieux, ça dépend de l'état aussi du bien patrimonial. Enfin, si c'est en ruine, c'est plutôt la nuit sous la tente, un peu à la scout. Et enfin, on a aussi un autre lieu, par exemple, on est logé directement dans la salle des fêtes de la mairie. Les jeunes allaient même prendre leur douche chez les habitants.
Et vous avez combien de chantiers en cours actuellement?
On est sur 8 lieux actuellement, que ce soit des châteaux, anciennes églises, abbayes, mais on a même un ancien fort militaire. Et donc ces 8 lieux sont répartis aux 4 coins de France et on est même depuis cet été en Corse.
Et vous faites quoi concrètement sur place? Par exemple, décrivez-nous l'un de ces chantiers. Qu'est-ce que vos étudiants, ces jeunes qui n'y connaissent pas forcément beaucoup en bâtiment, peuvent faire?
Par exemple, on peut prendre l'exemple de l'ancien fort militaire qui s'appelle le fort de la Pointe de Diamant, juste à côté de Langres, dans la Haute-Marne. Jean-Rémy Ribou qui se bat depuis une dizaine d'années tout seul un peu pour préserver ce magnifique fort. Et donc les jeunes, cet été, l'ont aidé à remonter une casemate, donc c'est une sorte de petit bâtiment militaire à l'extérieur du fort, pour pouvoir en faire par la suite un accueil de volontaires. Et donc là, c'était de la maçonnerie toute simple, enfin, voilà, pierre par pierre. Ils ont appris auprès de Jean-Rémy comment remonter un mur, comment faire du ciment, comment faire de la chaux, et remonter pierre après pierre ce petit bâtiment. Voilà, donc un exemple un peu précis de ce qu'on peut faire pendant les chantiers. Oui.
L'autre mission de votre association, vous l'avez dit, de ces chantiers bénévoles, c'est de créer du lien social avec les habitants, de partager des moments conviviaux. Là aussi, comme pour notre patrimoine, vous estimez qu'il y a urgence à s'investir?
Exactement, oui. On pense qu'en fait, on va aller un peu au-delà aussi de la restauration juste matérielle. Notre patrimoine, c'est un peu la porte d'entrée un peu pour quelque chose qu'on pense qui est encore plus important, qui est un peu de savoir nous réunir sur des choses simples entre Français. Voilà, on a beaucoup de sujets de division aujourd'hui, et voilà, nous on est juste des jeunes qui veulent aussi créer du lien, un peu d'unité à notre niveau, à notre échelle, et on pense qu'il peut, par des choses très simples, des actions toutes simples, on peut retrouver cela. Et ça peut être l'organisation de grands jeux pour les enfants du village, ça peut être là comme la semaine dernière au chantier de l'ancienne église Saint-Alban, un dîner à la fin de la semaine avec tous les habitants. On veut pas que les volontaires arrivent juste comme des petits sauveurs entre guillemets, qui viennent une semaine se donner bonne conscience en aidant un lieu et qui repartent ensuite. Mais on veut vraiment qu'ils s'inscrivent dans le territoire, qu'ils s'ancrent un peu localement pour être là en service et non pas en grand sauveur qui rentre par la grande porte du château. Non, on vient plutôt par la petite porte de service pour se mettre un peu au service d'une communauté, d'un territoire et d'un lieu.
Donner du sens à ces vacances en aidant à la restauration de notre patrimoine, c'est la mission de l'association Arcade. Merci à Maury Gomard d'avoir été en ligne avec nous et de nous avoir partagé votre belle initiative. Très bonne journée à vous.
Merci beaucoup, Aurore. Bonne journée. Merci.
Il est 5h26 sur Europe 1. Très bon réveil à tous. On parlera cinéma dans un instant. La prescription culture du mercredi avec Laurie Cholewa. Lui, c'est Noé Préchoff. Il nous arrive de Bruxelles et il chante cette route-là.
Ombline Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Quand par excès de lucidité et de sentiments contraires, j'en viendrai à me détourner de mes existences secondaires. Quand par excès de fidélité aux déracinements qui m'ont fait, je parviendrai à me décrocher de tout ce qui me défait.
quand je ne trouverai plus la force de dire oui pour dire non, de trafiquer mon écorce, de demander pardon quand j'irai changer de décor, affronter d'autres pluies. Ce ne sera pas un silence de mort, ce sera que de la vie. On ne choisit pas cette route-là, mais on n'étouffe pas une flamme comme ça. On ne choisit pas ce sentiment-là, d'avoir un départ tout au fond de soi. Parce qu'un père, parce qu'une mère, parce que chaque main effleurée retournera la poussière avant que rien n'ait commencé. Parce que pas fait pour les études, parce que pas fait pour les familles, et pas fait pour les habitudes qui allègent l'esprit. Parce qu'il y a sûrement un endroit où rassembler tous mes cerveaux. Je suis celle-là et celui-là, on est des milliers dans ma peau. Plus j'avance.
Cette route-là, extrait du premier album de Noé Prechov, sorti en avril dernier.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28 sur Europe 1, vous êtes peut-être en route pour aller au travail ou alors en train de vous étirer dans votre lit, où que vous soyez, restez à l'écoute de ce qui va suivre.
Notre spécialiste cinéma, Laurie Cholewa, a retenu 3 films coup de cœur actuellement en salle. C'est la prescription culture de ce mercredi.
Et puis votre interview actuelle à 5h40, Omblin, vous recevez ce matin
Pascal Hébel du Crédoc pour parler des distributeurs automatiques alimentaires qui se multiplient dans nos villages et autour des villes. Vous allez voir qu'ils rencontrent de plus en plus de succès auprès des consommateurs. Et ça peut paraître étonnant auprès des artisans et des producteurs locaux également.
La météo à 5h29 avec Anissa Haddadi. Rebonjour Anissa, est-ce que la journée sera plus calme aujourd'hui dans le sud-est ?
Oui, bien plus calme Julien. C'est vrai qu'hier les orages ont été forts, surtout très intenses. Il faut savoir que dans certaines communes du Var ou des Bouches-du-Rhône, on a eu des records de précipitations hier. Je vous les donnerai à 6h30, mais par exemple on a eu l'équivalent de 2 mois de pluie en 24 heures dans certaines communes du Var. Alors si vous avez été touché par ces orages hier, dites-vous bien qu'aujourd'hui c'en est terminé. Le temps redevient sec, ça c'est une bonne nouvelle. Ce matin, le soleil brille sur une grande partie du pays. Sur le Cotentin et les Côtes d'Armor, on aura des entrées maritimes qui vont apporter quelques grisailles ce matin. Les quelques gouttes qui tombent là actuellement sur Nice sont passagères, ça va se calmer. Cet après-midi, il va faire beau partout, sauf en montagne. Sur les Pyrénées, les Alpes et les reliefs corses, on aura de la pluie cet après-midi, mais uniquement en montagne. Et puis le vent de nord-est qui souffle toujours sur la moitié nord. Côté température, comptez 11 degrés à Rouen, 12 à Périgueux et Nancy, 13 à Paris, 16 pour Saint-Brieuc, 18 au Cap-Ferré, 19 à Nîmes et 20 degrés pour Nice ce matin.
Ce matin. Merci pour cette précision, Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Votre journal, il est 5h30.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
En tant que jeune musicien, en 2021, perdre un si grand musicien est assez douloureux. Nous avons perdu une légende.
Il était sans doute le plus discret des Rolling Stones, mais son talent était immense. Le batteur Charlie Watts est mort hier à l'âge de 80 ans. L'Amérique reste inflexible malgré la demande de ses alliés. Le président Joe Biden confirme le retrait américain d'Afghanistan le 31 août. Les parcs d'attractions et les clubs de sport victimes du pass sanitaire. La baisse de fréquentation est plus que sensible et peut atteindre 30% dans les plus petites exploitations. Et puis Nice et Marseille, convoquées aujourd'hui par la Ligue de football professionnelle. Les deux clubs vont devoir s'expliquer après les incidents de dimanche soir. Et le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien. Il semblait impassible derrière ses fûts, imperturbable. C'est aussi ce qui a façonné son image auprès du grand public. Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones, est mort hier à Londres à l'âge de 80 ans. Celui qui refusait obstinément de se mettre en avant est devenu une star malgré lui. Un batteur discret dont la disparition laisse un grand vide et les hommages se multiplient depuis hier soir. Reportage à Londres de notre correspondante Laure Van Ruinbeek.
L'un des premiers à rendre hommage à Charlie Watts, c'est Paul McCartney.
Dans une vidéo sur Internet, il confie « Charlie était un rock, un batteur fantastique, stable comme un rock. Je t'aime Charlie, je l'ai toujours aimé. » Son alter ego Ringo Starr, batteur des Beatles, écrit « Tu vas nous manquer mon pote, paix et amour à la famille. » Pour Elton John, Charlie Watts était le batteur ultime, le plus élégant des hommes, de formidable compagnie. Chic et discret, le batteur a inspiré des générations de musiciens comme Jennings Couch, artiste londonien.
En tant que jeune musicien en 2021, perdre un si grand musicien est assez douloureux. Nous avons perdu une légende.
Le bassiste James Heller est lui tombé dans sa musique étant petit.
À 11 ans, je suis entré dans les Stones de façon soudaine et totale, en grande partie grâce à Charlie Watts. C'était mon éveil musical. Les Rolling Stones n'auraient jamais été le même groupe avec un autre batteur. Un grand homme plein d'âme et l'une des icônes les plus cool de l'histoire du rock.
Glenn Matlock des Sex Pistols immortalise la légende avec ses propos. Charlie Watts gardait le rythme de la bande-son de nos vies.
Laure Van Orenbeck à Londres, Charlie Watts, l'autre star des Rolling Stones, derrière évidemment l'immuable duo Julien, on pourrait parler de couple formé par Mick Jagger et Keith Richards.
L'autre grand titre ce matin, ce sont les États-Unis qui ne cèdent rien à leurs alliés sur la question afghane. Le dernier soldat américain quittera bien l'Afghanistan le 31 août.
Même si Joe Biden a fait semblant de lâcher un peu de lest en demandant au Pentagone d'étudier un plan de secours au cas où, il n'empêche, le président américain maintient son calendrier. Le dernier GI quittera le sol afghan le 31 août. La réunion du G7 se solde donc par un échec pour les Européens, à commencer par les Français, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, laissez-nous un maximum de temps. C'est en somme ce qu'Emmanuel Macron a demandé à Joe Biden hier lors de cette réunion. Une expression rapportée par un conseiller du président français qui met en lumière le peu de marge de manœuvre de la France. Dans toutes les têtes, cette date du 31 août, mardi prochain, les États-Unis devront avoir quitté l'Afghanistan. Les talibans refusent toute extension. La situation actuelle, c'est le résultat du retrait américain. Ce sont eux qui décident, martèle impuissante l'Élysée. L'Union européenne a beau appeler les États-Unis à sécuriser l'aéroport de Kaboul aussi longtemps que nécessaire. Washington maintient son cap. Les pays du G7, dont la France, contraint de suivre le mouvement, contraint aussi de se plier de plus en plus aux exigences des talibans. Les Occidentaux manquent de levier pour imposer un calendrier. Il leur manque aussi l'appui des Chinois et des Russes, dont le rôle est crucial dans la région. Une réunion en G20 est évoquée pour tenter d'avancer dans le dossier afghan.
Les opérations d'évacuation se poursuivent à Kaboul. Deux avions français devraient quitter l'Afghanistan dans les heures qui viennent et permettre ainsi à environ 400 Afghans de se mettre à l'abri.
La campagne de vaccination ralentit légèrement, mais cela n'empêche pas la France de figurer parmi les bons élèves.
Un tout petit peu plus de 70% de la population a reçu au moins une dose. Cela représente au total près de 48 millions de primo-vaccinés. La pression reste forte sur les hôpitaux avec plus d'un millier de malades du Covid admis en 24 heures, la faute au variant Delta, bien sûr. Il faut tenir encore quelques jours, dit Olivier Véran. Selon le ministre de la Santé, le pic de contamination n'est plus très loin.
Et du côté des vaccins, on apprend que l'efficacité des sérums Pfizer et Moderna est moins élevée qu'annoncée contre le variant Delta.
Et les deux vaccins protégeraient désormais à 66% selon l'autorité de santé américaine. C'était 91% au début de la campagne, mais l'apparition du variant Delta a, semble-t-il, changé la donne. La France, elle, a déjà choisi la voie de la troisième voie, de la troisième dose. La campagne de rappel pour les personnes de plus de 65 ans et les plus fragiles débutera le 1er septembre.
Quant au pass sanitaire, il continue de faire débat et n'est pas sans conséquence pour certains secteurs de l'économie, Christophe.
Oui, les cafés, les restaurants se plaignent d'une perte de chiffre d'affaires autour de 25% à Paris, par exemple, mais d'autres secteurs sont en souffrance. Dans les parcs d'attractions et les clubs de gym, le pass est obligatoire depuis le 21 juillet. Carole Ferry, on a donc un peu plus d'un mois de recul. On peut faire un premier bilan. L'impact est non négligeable dans certains secteurs.
Effectivement, les parcs de loisirs notamment font partie des secteurs les plus touchés. Enfin, tout dépend lesquels. Les grands parcs comme Astérix, le Futuroscope ou le Puy du Fou ont enregistré une baisse de la fréquentation les premiers jours. Mais les visiteurs sont rapidement revenus. Mi-août, l'activité est à nouveau au niveau de 2019. Les plus petits souffrent beaucoup plus. Le zoo d'Auxois, par exemple, près de Mâcon, a toujours un tiers d'activité en moins. Pareil pour le parc d'attractions Hockey Coral en Rhône-Alpes. Vincent Humbert dirige lui le domaine d'Antilles, entre Annecy et Genève. Il comptait beaucoup sur l'été pour rattraper les pertes accumulées depuis un an et demi, mais le pass sanitaire a anéanti tous ses espoirs.
Ça a été vraiment, vraiment très, très dur. Le pass sanitaire est arrivé quand le beau temps arrivait et ça nous a vraiment, vraiment fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Suite aussi parce qu'on est à côté de la frontière et que nos amis suisses ne font pas de test PCR pour venir chez nous parce qu'ils payent leur test PCR. Donc ça, c'est lourd. Et puis quand même, il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas fait vacciner, ça c'est clair. Et quand il faut faire un test PCR pour venir chez nous, la difficulté, elle est trop grande par rapport à une famille. C'est trop de contraintes pour venir sur un parc comme nous.
L'autre crainte du secteur, c'est le pass sanitaire pour les salariés, obligatoire à partir du 1er septembre dans les lieux qui accueillent plus de 50 personnes en même temps. Des salariés souvent jeunes, pas toujours enclins à se faire vacciner, ce qui pourrait accroître les difficultés de recrutement.
Carole, est-ce que vous avez d'autres exemples de secteurs touchés ?
Oui, les casinos de jeu, il n'y a pas de chiffres précis, mais ils constatent tous une baisse de la clientèle. Déjà parce qu'il manque les touristes étrangers, mais aussi parce que la situation s'est aggravée avec la mise en place du pass sanitaire. Et puis vous avez les salles de sport. Selon les représentants du secteur, les demandes de résiliation d'abonnement ont augmenté de 20% par rapport à 2019 à l'arrivée du pass sanitaire. Là encore, des clients non vaccinés qui ne souhaitent pas faire un test à chaque séance. Il y a eu dans le même temps une baisse sensible des nouveaux abonnements. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est engagé à faire le point sur ses impacts dès lundi prochain.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
On passe au foot et cette question ce matin. Le Real Madrid serait-il sur le point de déclencher l'opération Kylian Mbappé ?
À une semaine de la clôture du marché des transferts, les Madrilènes viennent de faire une première offre au Paris Saint-Germain, 160 millions d'euros pour s'offrir les services de l'attaquant parisien. C'est ce que révèle la presse espagnole. Les dirigeants du PSG n'entendent pas céder pour l'instant, mais le feuilleton Mbappé ne fait peut-être que commencer.
Quant aux Marseillais et aux Niçois, ils vont devoir s'expliquer devant la Ligue.
Les dirigeants des deux clubs sont attendus aujourd'hui au siège de la Ligue à Paris après les incidents qui ont conduit à l'arrêt de la rencontre dimanche soir. L'instruction prendra du temps, mais les sanctions pourraient être très lourdes, Cyril de la Morinerie.
Oui, avant même les sanctions sportives, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de fermer la tribune populaire sud pour 4 matchs. La mesure entre en vigueur dès samedi pour la rencontre Nice-Bordeaux prévue à 17h. Mais la commission de discipline de la Ligue pourrait aller plus loin et imposer un huis clos total. Les sages pourraient également prendre d'autres mesures à titre conservatoire. Des dirigeants niçois et marseillais ainsi que certains joueurs pourraient être suspendus. L'OM espère la clémence notamment pour Dimitri Payet, le milieu de 34 ans touché au dos par une bouteille, avait relancé le projectile en direction des tribunes. Le sort de la rencontre sera également décidé. Tous les scénarios sont possibles. Confirmation de la victoire niçoise, match à rejouer, voire défaite de Nice sur tapis vert. Quant aux supporters violents, lorsqu'ils seront identifiés, la justice pourrait prononcer notamment des interdictions de stade.
Il faudra sans doute attendre une semaine, voire 15 jours avant d'avoir la décision de la Ligue professionnelle de football.
Merci beaucoup Christophe Lamar pour ce journal. On passe maintenant aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur l'hippodrome de Vincennes en nocturne que se disputera ce Quintet, une course européenne au trot attelé qui réunira 14 chevaux âgés de 7 à 10 ans et dans cette confrontation intergénération, priorité aux plus jeunes. Avec les numéros 3 Electra du Vivier venant d'échouer du minimum pour la victoire le 4 août à Enghien, 10 Écho de Champlecy, toujours très performant lorsqu'il évolue pieds nus sans ses 4 fers. 1. Elena Di Quattro, une Suédoise certes la moins riche de ce quintet, mais pas la moins douée. Et 4. Erdelios, quatrième en dernier lieu de la 9e étape du Grand National du Trot à Saint-Malo, face à une opposition plus relevée. Ensuite, je vous recommande les numéros 11, Equinox JL, 6, Elise Cabéry, 9, Classe Action et 14, Blackjack From, qui ont eux aussi les moyens de compléter la combinaison gagnante de ce quintet. Mon pronostic, 3, 10, As, 4, 11, 6, 9 et 14.
Et je vous rappelle que tous ces pronostics, vous pouvez les retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain. Vous restez avec nous dans un instant, mon interview actu avec Pascale Hébel, la directrice du pôle consommation au Crédoc. On va parler des distributeurs automatiques alimentaires de plus en plus nombreux dans nos campagnes. A tout de suite sur Europe 1.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Très bon réveil à tous en ce mercredi matin et à 5h41. On poursuit cette matinale avec votre interview actu Omblin. Et ce constat, les distributeurs automatiques alimentaires fleurissent de plus en plus dans nos campagnes. On peut désormais y acheter des légumes, des œufs, de la farine et même un poulet rôti, pourquoi pas. Est-ce la mort annoncée des petits commerces de nos villages ou au contraire un moyen de les redynamiser ? Eh bien, pour en parler, Omblin, vous recevez Pascale Hébel, la directrice du pôle consommation au Crédoc.
Bonjour Pascale Hébel.
Bonjour.
Pourquoi un entrepreneur, un artisan, un maraîcher ou même une PME dans le centre d'un village va faire le choix, selon vous, d'ouvrir un distributeur automatique alimentaire plutôt qu'un magasin ?
Alors, ce qu'on observe, c'est que dans les petits villages, on a de moins en moins de commerces. Ces villages se sont petit à petit isolé par rapport au commerce. Et finalement, on a besoin, pour ceux qui vivent dans ces petits villages, de continuer à s'approvisionner. Et donc, le progrès fait par ces distributeurs automatiques qui permettent aujourd'hui de mettre des produits qui restent dans des conditions de fraîcheur, eh bien, permettent à des personnes qui sont un peu isolées de continuer à s'alimenter et d'avoir accès à des aliments sans être obligées de prendre en voiture.
Que répondez-vous à ceux qui jugent ces distributeurs automatiques alimentaires responsables d'une partie de la déshumanisation des commerces ? Le principe même, c'est qu'il n'y a personne, ce sont des cabines et on se sert soi-même, elles sont automatisées et connectées.
C'est vrai que ça rend les choses beaucoup moins sociables, mais c'est vrai que c'est ce qui s'est passé, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est bien parce qu'il y a une déshumanisation des centres, des petits villages. On a de moins en moins de cafés, par exemple, qui était un lieu de sociabilité. Il reste souvent qu'un bureau de poste, puisque c'est un service public et on a rendu obligatoire d'avoir des bureaux de poste dans des petits villages. Donc finalement, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est bien parce qu'il n'y a plus personne qu'il fallait trouver des solutions. Et ça permet à ceux qui n'ont pas de voiture, en fait, de continuer à s'approvisionner. On sait que c'est dans les zones rurales qu'il y a le plus d'utilisation de e-commerce, parce qu'il n'y a pas de quoi acheter des produits suffisamment prêts. Et ceux qui vivent dans ces zones, souvent, ont beaucoup de kilomètres à faire pour trouver des grandes surfaces. Donc c'est un petit peu dans l'autre sens que ça s'est passé. C'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'habitants que les commerces ont dû fermer. Et aujourd'hui, pour que ceux qui sont continuent d'y vivre, il faut bien trouver des solutions. Et c'est compliqué de se réimplanter en tant que commerçant, puisqu'il n'y a pas suffisamment d'habitants. Et donc, c'est une solution qui permet à chacun de continuer à s'approvisionner. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas une voiture et tout le monde ne peut pas faire 20 km pour aller chercher son pain. Donc, on voit de plus en plus de distributeurs automatiques sur du pain, donc ça peut être à côté de la boulangerie qui ne peut pas rester ouverte 24 heures sur 24, et donc ça rend plus facile pour les consommateurs un accès à des aliments toute la journée.
Est-ce que justement ça peut être une solution aussi pour repeupler certains villages voués à être désertés par ses habitants puisque les commerces fermés les uns derrière les autres ?
Oui, vous avez tout à fait raison, c'est que ça peut aller dans le sens inverse. En effet, c'est qu'on sait bien qu'en ce moment, il y a une envie d'aller vivre à la campagne qui est liée à toutes ces périodes de confinement. Et donc, les gens qui vont tester, qui vont commencer par bouger, s'il n'y a pas ces solutions-là, ils ne resteront pas. Et donc, finalement, c'est une solution pour que petit à petit, il y ait de plus en plus d'habitants. Et ensuite, des commerces pourront s'ouvrir. Il faudra sans doute que ce soit des commerces qui soient très diversifiés. Mais c'est en effet une solution pour qu'on continue à avoir de la vie à des endroits où ça se diversifie, ça se désertifie et où on a de moins en moins de monde.
Alors on a parlé du consommateur, si on se place de l'autre côté de ce distributeur automatique, est-ce qu'il peut redynamiser nos campagnes ? Est-ce que c'est aussi une solution pour l'agriculteur du coin de vendre ses produits sans intermédiaire ?
Alors c'est vrai que ce qu'on observe sur cette vente en circuit court, c'est-à-dire de consommateurs qui vont directement acheter des produits auprès des producteurs, des éleveurs, des agriculteurs, c'est que bien dans ces zones rurales qu'on a le plus de gens qui achètent en circuit court, parce qu'en effet il y a une proximité avec les producteurs. Donc c'est une façon pour des producteurs de passer moins de temps. Souvent c'est pas leur métier en fait, de faire du commerce, de s'installer avec des camions pour vendre. Et comme ça, ça leur simplifie la tâche et ils peuvent continuer à cultiver et leurs produits se vendent sans être obligés de cumuler les deux métiers, d'être à la fois commerçant et de pouvoir produire, que ce soit de l'élevage ou des légumes et des fruits. Donc au contraire, oui, c'est bien une solution pour des agriculteurs qui sont peut-être un petit peu loin et qui n'ont pas le temps finalement de faire les deux métiers.
Merci beaucoup, Pascale Hébel, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes la directrice du pôle consommation au Crédoc. Merci.
Merci beaucoup, au revoir.
5h46 sur Europe 1, le soleil commence tout doucement à pointer le bout de son nez. Je regarde par la fenêtre du studio.
Tout doucement.
Oui, tout doucement.
Voilà.
Un peu
en
comme
tout cas, quelque part dans le monde, ça commence.
Oui, bah, ça c'est sûr. Oui. Merci Ombline pour cette leçon de géophysique. Tout doucement à pointer le bout de son nez, oui. Tout comme les films de la rentrée. C'est la prescription culture de notre spécialiste cinéma, Laurie Cholet-Ouah. Bonjour Laurie.
Bonjour.
Et bienvenue à vous sur Europe 1.
Merci beaucoup.
Laurie, c'est une petite semaine pour les sorties en salle.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, seulement 8 nouveautés au cinéma cette semaine, mais rassurez-vous, ça ira mieux la semaine prochaine et j'ai quand même trouvé des petites pépites qui valent le détour.
Alors on parle d'abord petit écran sur grand écran.
Avec France de Bruno Dumont, présenté en compétition au dernier festival de Cannes. Alors, qui est France? C'est Léa Seydoux, journaliste vedette d'une chaîne d'infos en continu, vous connaissez ça très bien,
oui.
Qui vit dans un monde privilégié, elle enchaîne les reportages à l'autre bout du monde. Bon, elle bidonne un peu ses sujets et elle s'occupe à peine de son fils, alors ça c'est pour le cliché, délaisse son mari et puis un jour elle va renverser un livreur en scooter et c'est cet accident sans gravité qui va la faire basculer du jour au lendemain. Elle va remettre en question toute sa vie, la manière dont elle exerce ce métier. Et puis elle va réaliser que oui, il y a des gens qui gagnent moins qu'elle, oui, il y a des SDF, et oui, il y a de la misère sur Terre. C'est du pur Bruno Dumont, donc un univers qui peut parfois décontenancer entre drame et ironie, mais qui ne laisse jamais indifférent. Et c'est vraiment une satire féroce du monde des médias, du traitement de l'information, et puis du monde d'aujourd'hui qui place parfois l'image et les apparences au-dessus de tout, et surtout au-dessus du sens.
Vous les journalistes, on change rapport. Vous courez après l'audimat.
Et donc ?
Alors vos leçons de morale, vous les gardez pour vous, les vôtres et vos idiots utiles.
Ça va aller, ma puce, on va aller chez Dior pour choisir les bijoux et la robe.
Je ne supporte plus le regard des gens.
Les gens vont te détester, puis t'adorer, c'est la même chose.
Je ne supporte plus mon mari.
C'est pas ton argent, c'est notre argent.
Je gagne 5 fois plus que toi.
Ça explose.
Mais putain, mais merde, mais qui ?
C'est génial.
Bon, des dialogues savoureux quand même.
Ouais.
Et puis alors, faut le dire, Léa Seydoux qui est épatante, quasiment sur tous les plans du film, elle irradie vraiment. Et moi, je trouve qu'elle se révèle de film en film comme une très, très grande actrice.
Dans un autre registre, Laurie, un film qui sent bon l'été.
Oui, alors Julien, est-ce que vous aimez les huîtres?
Oui, avec modération, mais oui.
Alors moi, je vous emmène à Sète, en bord de mer, manger des huîtres et puis surtout, revivre votre premier amour avec Fragile. C'est le premier film lumineux, plein de sensibilité d'Emma Benestan, ancienne monteuse d'Abdelatif Kechiche. C'est dire si elle a le sens du cadre.
Est-ce que tu veux devenir ma femme?
Oui, j'ai compris.
Oui? Ah, le soulagement, putain.
Non, j'ai dit oui, j'ai compris, mais pas à ta première question.
Qu'est-ce qui se passe avec Jess?
T'as tout bien fait comme je t'ai dit. Le ménage, ton linge propre, la vaisselle.
Est-ce que je peux chialer tranquillement, s'il vous plaît?
Ah non, tu peux être tranquille, mais tu peux pas chialer.
Bon, vous l'aurez compris, c'est la triste histoire de Az, ouvrier ostréiculteur à Sète, qui vient de se faire plaquer par sa petite amie Jessica, star de la série judiciaire locale, alors qu'il venait de la demander en mariage. Et puis, alors, comment il l'a demandé en mariage? Il a placé la bague dans l'huître. C'est romantique, mais c'est un peu dangereux.
Ouais.
C'est peut-être pour ça qu'elle a dit non, d'ailleurs. Alors, évidemment, pour Az, c'est la fin du monde, au 36e dessous, et il va quand même suivre les conseils de son ami d'enfance et se mettre à préparer une chorégraphie de danse pour reconquérir sa bien-aimée avec des acteurs incroyables. C'est un joli petit premier film.
Et puis pour terminer, Laurie, on part pas très loin de Sète, direction Marseille.
Non. Avec Bac Nord qui est sorti mercredi dernier sur les écrans et qui finit la semaine en tête du box-office avec plus de 400 000 spectateurs, ce qui est remarquable dans le contexte actuel. Et puis Bac Nord, un film finalement tristement d'actualité puisqu'il parle des problèmes de trafic de drogue dans la cité phocéenne. Film de Cédric Jimenez, film coup de poing avec Gilles Lelouch, Karim Leclou et François Civil qui retrace l'histoire de 3 flics de la BAC des quartiers Nord lâchés par leur hiérarchie et poursuivis devant la justice pour corruption.
Tu sais rien des quartiers Nord? On a failli crever là-bas!
Toi, tu rentres chez toi, tu risques rien. T'as ma parole. Que je fais ce métier, moi je le fais, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas comment on en est arrivé là, en fait.
Alors on suit ces 3 policiers dont on sait peu de choses, évoluer dans ces quartiers chauds de Marseille, des hommes vraiment brisés par le système. Écoutez Gilles Lelouch que j'ai rencontré lors de la présentation du film à Cannes, parler de son personnage.
Au début, Cédric avait écrit un personnage un peu genre playboy, qui sortait, qui... voilà, un peu très je sors, je suis un petit playboy de supermarché, enfin bref.
Et j'ai un flingue dans la poche.
Ouais, voilà. Voilà, avec un flight jacket et c'est parti. Et en fait, moi je trouvais que c'était peut-être pas très juste, donc j'ai plutôt taillé là-dedans, en lui demandant de faire un personnage très solitaire, qui n'a pas de vie sentimentale, qui n'a pas de vie familiale. Les week-ends, il les passe avec ses collègues de travail, enfin un type qui a tout dédié à son métier, et quand ce métier le trahit, quand c'est à la hiérarchie, le trahit, c'est tout son monde qui s'écroule.
Alors, je vous le dis tout de suite, hein, c'est du grand cinéma comme on en fait rarement en France. Un film nerveux, tendu, qui ne vous lâche pas. Et vraiment, il faut aller le voir.
Merci beaucoup, Laurie Cholewa, pour votre prescription cinéma de ce mercredi.
Le matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Voilà, le journal permanent à 5h52, l'essentiel de l'actualité, avec vous Élise Dangean.
Le confinement et le couvre-feu en vigueur depuis le 30 juillet en Martinique sont prolongés de 3 semaines supplémentaires jusqu'au 19 septembre inclus. Le taux d'incidence a pourtant reculé, mais la situation à l'hôpital reste préoccupante. À peine remis de l'incendie qui a ravagé plus de 7000 hectares de forêt, le Var fait désormais face à des inondations d'ampleur. L'équivalent de 2 à 3 mois de pluie est tombé sur la région hier en seulement quelques heures. Le retrait des troupes américaines d'Afghanistan s'effectuera bien le 31 août prochain. Confirmation de Joe Biden hier, le président américain défend le maintien de son calendrier par la menace croissante, dit-il, d'une attaque terroriste. Enfin, c'est une perte énorme pour le monde du rock. Charlie Watts est décédé hier. Le célèbre batteur des Rolling Stones s'est éteint à l'âge de 80 ans.
Merci beaucoup, Élise Dangean.
Europe Matin.
L'actualité de ce mercredi s'écrit aussi dans vos quotidiens régionaux. C'est en France. C'est un article de presse régionale raconté par celui qui l'a écrit. Et aujourd'hui, Julien, on parle d'éoliennes.
Avec Jean-Marc Chevauchet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef adjoint au Courrier Picard, où l'on peut lire ce matin un article sur un projet d'implantation d'éoliennes dans la Somme, un de plus, qui provoque un vent de contestation.
Oui, alors il faut savoir que dans les Hauts-de-France, il y a déjà 2500 éoliennes hein, sur l'ensemble des départements, dont près de 1900 dans la Somme. Donc la Somme est quelque peu saturée des projets d'éoliennes. Alors c'est jamais qu'un projet de plus, hein, un projet supplémentaire. Il n'y en a que 12 cette fois-ci, donc c'est pas énormément d'éoliennes. Simplement, c'est, on va dire, le petit courant d'air de trop dans les vents nouveaux qui soufflent sur les campagnes. Et là, quelques communes sont en train de se rebeller sur ce projet de 12 éoliennes. Il faut bien savoir que dans un rayon de 20 km, on en compte tout de même 400.
Et ce qui est absolument considérable, le paysage de la Somme est déjà fleuri, entre guillemets, de ces éoliennes. Ça se passe où exactement, là?
Alors, ça se passe dans une petite vallée qu'on appelle la vallée du Liget, dans laquelle il y a quelques communes qui sont concernées, des toutes petites communes, des noms improbables, Arguel, Villers-Cansard, Liomer, Ornouël-Bourg, des communes qui ne font jamais parler d'elles. Mais les riverains.
C'est à l'ouest d'Amiens, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça. Les riverains qui habitent là se sentent sacrifiés pour décrire ce qu'ils nous racontent. Et ils nous disent, ben, on en a déjà assez, et dans un rayon de 20 km autour des villages, on en a 400, donc on n'en veut pas 12 de plus.
Et ils n'ont pas eu leur mot à dire, il n'y a pas eu de concertation?
Alors, il y a eu effectivement une étude d'impact, il y a eu toute la procédure légale. Ventelis, qui promeut ce projet, affirme qu'il a tenu compte des doléances et qu'il a reculé les éoliennes des habitations. Mais il faut comprendre que c'est le projet supplémentaire qui, dans une région où d'ailleurs Xavier Bertrand a fait de la lutte contre les éoliennes qui s'implantent partout sur le territoire, un des angles de sa campagne régionale, eh ben, les gens sont très très mobilisés sur ce dossier-là.
Vous le disiez déjà, plus de 1000 éoliennes rien que dans la Somme, c'est plus d'un dixième du parc français. Pourquoi est-ce que ce département en particulier concentre ainsi autant de projets?
Mais comme à chaque fois, hein, c'est le couloir aérien. Vous avez entre de Rouen, Dieppe et Lille un couloir aérien dans lequel il y a des vents qui sont extrêmement propices au développement des éoliennes, et vous les retrouvez sur ce secteur, dans la Seine-Maritime, dans la Somme, dans le Pas-de-Calais, jusque dans le Nord. Et effectivement, c'est essentiellement dans la Somme et dans le Pas-de-Calais qu'il y en a.
Vous avez parlé de Xavier Bertrand qui est opposé à cette hyper-concentration d'éoliennes. Que disent les autres responsables politiques locaux? Que dit le Conseil général de la Somme, par exemple? Ils n'ont pas leur mot à dire?
Alors, pour l'instant, le Conseil départemental n'est pas entré dans le dossier. On pense qu'il devrait réagir, parce qu'il est désormais présidé depuis les dernières élections par un proche de Xavier Bertrand qui est sur la même ligne politique, donc il y a fort à parier qu'ils vont intervenir. Mais pour l'instant, ce projet est un vieux projet, c'est un projet de 2017 qui a ressurgi parce que les dispositions légales sont arrivées à leur terme, et maintenant les gens n'en peuvent plus.
D'où la colère, la solitude également des habitants de ces villages. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le Courrier Picard. Merci beaucoup Jean-Marc Chevauchet d'avoir été avec nous ce matin.
À bientôt.
À très bientôt sur Europe 1. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try.
it tight. You pull me close, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who pays the price.
C'était Take My Breath, le tout dernier single aux sonorités 13, années 80, comme vous pouvez l'entendre, du chanteur canadien The Weeknd.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Allez, on garde ce rythme dynamique pour la suite de votre matinale sur Europe 1.
Avec au programme de la prochaine demi-heure, votre interview actu, Julien. Vous recevez dans une dizaine de minutes le directeur de la collecte de l'établissement français du sang, confronté à un double problème, pénurie de donneurs et pénurie de personnel pour prélever ces précieuses poches de sang qui sauvent des vies.
Et juste après, à 6h20, on bline votre partition.
Il tenait ses baguettes à l'envers. Il était considéré comme l'un des meilleurs batteurs au monde. Hommage à Charlie Watts, l'un des piliers des Rolling Stones, disparu hier.
Mais avant, à 5h59, c'est la météo avec vous, Anissa Haddadi. Après les fortes pluies d'hier dans le sud-est, le temps reste nuageux cet après-midi.
Oui, des Alpes jusqu'à la Provence, Julien, en Corse et sur les Pyrénées, même jusqu'au Massif central, on a un ciel qui est un petit peu plus couvert autour de ces montagnes, avec des nuages ce matin qui auront du mal à se dissiper. Puis dans l'après-midi, ce sont des averses qui vont se déclencher sur ces reliefs. Mais rassurez-vous, ces averses ne seront pas aussi fortes qu'hier. Sur le reste du pays, il va faire beau. Le temps est plus calme. Le long des côtes de la Manche, on a toujours des entrées maritimes qui apportent un petit peu de grisaille. Je vous conseille d'en profiter aujourd'hui. Je vous conseille de profiter de cette journée parce que côté température, nous avons une journée vraiment estivale et ça ne va peut-être pas durer. Je ne vais pas vous casser le moral à 6h du matin, mais on aura 10 degrés à Reims, 12 à Lille, 14 degrés pour Paris, 17 à Marseille et 20 degrés pour Bastia cet après-midi. Comptez 21 à Dunkerque, 25 pour Paris, 28 à Bordeaux et 31 degrés à Nîmes.
On garde le moral. Merci beaucoup Anissa. Vous écoutez Europe 1, très bon réveil à tous, c'est le journal. Il est 6h.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à la une ce matin, l'Afghanistan. Washington maintient le cap et l'Europe suit le mouvement. Joe Biden a confirmé hier soir le départ des troupes américaines mardi prochain, le 31 août. En Guadeloupe, la vaccination s'accélère. Une prise de confiance de la population face à l'hécatombe sur l'île. Le reportage à suivre de notre correspondante. Le yoga, nouvelle porte d'entrée des dérives sectaires. Les autorités s'inquiètent face à la hausse des signalements. Et puis les Jeux paralympiques de Tokyo, les épreuves démarrent aujourd'hui. Un rendez-vous qui bouge l'innovation pour les prothèses et fauteuils destinés au grand public. Et le journal de 6h vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Les États-Unis n'ont pas plié face à la pression des Européens. Hier, lors d'un sommet virtuel du G7, Berlin, Londres et Paris réclamaient un délai supplémentaire pour le retrait des troupes américaines en Afghanistan. Seul moyen pour ces pays de poursuivre les évacuations en sécurité à Kaboul. Mais Joe Biden a maintenu le cap et le calendrier, Alexis Guilleux.
Oui, c'est la stratégie du président américain. Il s'en tient à cette date du 31 août, mardi prochain, pour faire partir toutes les troupes américaines d'Afghanistan, celles qui sécurisent actuellement l'aéroport de Kaboul. Joe Biden pointe le risque croissant d'attaques terroristes. Nous sommes en voie d'achever notre opération d'ici le 31 août. Plus tôt nous aurons terminé, mieux ce sera. Nous savons que le groupe État islamique cherche à viser l'aéroport pour attaquer les forces américaines, alliées et des civils innocents. Joe Biden s'est présenté avec plus de 5 heures de retard cette allocution, signe de l'intense pression que subit la Maison-Blanche. Il a tout de même demandé au Pentagone de préparer des plans de secours au cas où le maintien des troupes s'avère nécessaire. Alors malgré ces désaccords sur le calendrier des évacuations, les membres du G7 ont tout de même affiché leur unité concernant leurs relations à venir avec les talibans. None of us are going to take the Taliban's word for it. We'll judge them by their actions. Aucun de nous ne croira les talibans sur parole, nous les jugerons sur leurs actes, dit Joe Biden. De leur côté, les nouveaux maîtres de Kaboul craignent une fuite des cerveaux et demandent aux Occidentaux d'arrêter d'évacuer les Afghans qui ne peuvent désormais plus se rendre à l'aéroport.
Les explications d'Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
On vous en parle depuis plusieurs jours sur Europe 1, la situation sanitaire dramatique aux Antilles, submergée par le Covid.
En Guadeloupe, le taux d'incidence est 7 fois supérieur à celui de métropole, la faute à une couverture vaccinale trop limitée. Moins d'un quart des adultes guadeloupéens a reçu les doses nécessaires.
Mais face au nombre de décès, les plus hésitants sautent finalement le pas. Depuis quelques jours, les centres de vaccination se remplissent enfin. Écoutez le reportage à Pointe-à-Pitre d'Amandine Asensio.
Dans la file d'attente devant le plus grand centre de vaccination de l'île, ils sont une vingtaine à patienter à l'ombre du bâtiment pour prendre leur première dose. Ceux qui passent le pas, comme Thomas, le font pour garder la possibilité de voyager ou de se déplacer.
Je me suis fait vacciner déjà la première dose pour pouvoir voyager dans l'international et la deuxième dose pour avoir mon pass sanitaire et pouvoir me balader là où je veux.
Quelques mètres derrière, Marilyn, enseignante, anticipe déjà la rentrée.
C'est vrai que M. Blanquer a dit que ce n'était pas nécessaire, le pass sanitaire. Néanmoins, je sais qu'on aura la pression des parents d'élèves qui feront vacciner leurs enfants. Donc, c'est vraiment par obligation que je me retrouve là.
En Guadeloupe, où moins d'un quart de la population présente un parcours vaccinal complet, l'affluence dans les centres de vaccination a repris, comme l'explique Tony Gerpan, le médecin colonel des pompiers, référent du vaccinodrome.
Depuis 15 jours, on peut dire qu'il y a une affluence réelle, permanente sur le vaccinodrome. Nous tournons entre 550 et 600, c'est nous est même arrivé de faire 700 deux ou trois jours.
Une reprise qui réjouit les autorités alors que les contaminations au variant Delta continuent de se multiplier sur l'archipel. Lundi, la barre des 100 000 primo-vaccinés a été franchie. Pointe-à-Pitre, Amandine Asensio, Europe 1.
La première dose pour certains et bientôt la troisième pour d'autres. La Haute Autorité de Santé a donné hier son feu vert pour une campagne de rappel dès le 1er septembre pour les plus de 65 ans.
Aux États-Unis, en revanche, une étude révèle ce matin que les vaccins Pfizer et Moderna seraient finalement moins efficaces que prévu face au variant Delta. Les performances de ces sérums passeraient de 91 à 66% de protection face au virus.
6h04 sur Europe 1, la suite du journal de Romain Oquet avec l'affaire Jubilar maintenant. Delphine, une infirmière du Tarn de 33 ans, est toujours portée disparue depuis le 16 décembre dernier.
Le principal suspect, son mari, Cédric Jubilar. L'homme a été mis en examen pour meurtre et après 2 mois en prison, il clame toujours son innocence.
Ses avocats vont donc déposer aujourd'hui une nouvelle demande de remise en liberté, car pour maître Alexandre Martin, le dossier est tout simplement vide.
Notre client est innocent. Des semaines passent, qu'à ce jour, il n'a toujours pas été entendu par les juges d'instruction. L'enquête n'a rien apporté de plus. Et nous allons marteler le vide de ces éléments. Et son état d'esprit, il est double. À la fois un homme qui est dans une situation très difficile de désarroi, où en premier lieu, plus de nouvelles depuis de nombreux mois de Delphine. Il ne voit plus ses enfants, il est privé de liberté, il est seul à l'isolement. Deuxièmement, un état d'esprit combatif. Il espère que rapidement la justice va se rendre compte de l'erreur dans laquelle elle est en train de vers laquelle elle est en train de cheminer.
Maître Alexandre Martin, l'un des avocats de Cédric Jubilar, joint par Gladys Lafitte. Dans le Var, le sort et surtout la météo s'acharnent contre les habitants. Après la sécheresse et ce gigantesque incendie dans le massif des Morts, c'est désormais la pluie, la grêle et les orages qui ont secoué hier en fin de journée le centre du département. Dans la commune de Pignan, des inondations et des routes coupées ont mobilisé jusqu'à 140 pompiers.
C'est une pratique de plus en plus à la mode et qui désormais interroge les autorités publiques. On vous parle ce matin des stages bien-être.
La semaine dernière, justement, une femme de 44 ans est décédée dans l'Indre alors qu'elle suivait un stage de jeûne. Une enquête pour homicide involontaire est ouverte.
Et dans son dernier rapport, la MIVILUDE, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, alerte sur l'augmentation des signalements liés à ces pratiques. Justin Morin, cela concerne avant tout le yoga et la méditation ?
Effectivement, il y a eu 159 alertes rien que dans ces deux domaines l'année dernière, soit presque 2 fois plus qu'en 2019. L'augmentation des dérives est aussi perceptible en ce qui concerne le secteur de l'alimentation. Il y a eu 120 signalements l'an passé. Alors concernant le yoga, les experts recensent une dizaine de mouvements qui posent problème, mais ils soulignent surtout les interprétations et les pratiques néfastes que peuvent imposer individuellement certains professeurs, surtout quand cela concerne la santé. Certains maîtres de yoga mettent par exemple en avant l'immunité naturelle contre le Covid, dopée par le yoga. Et c'est ce qui pose problème, selon Marie Drillon, vice-présidente de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu.
Certains vont se servir de ça pour asseoir une emprise sur les personnes qui les suivent en leur promettant qu'il n'y a pas besoin de masque, qu'il n'y a pas besoin de vaccination. Voilà, il faut avoir une certaine hygiène de vie, certaines plantes, certaines pratiques qui vont vous protéger avec le risque de passer à côté de vrais symptômes de maladies qui doivent être soignées autrement.
Le travail de prévention, selon elle, est d'autant plus difficile que le yoga et la méditation ont une très bonne image dans les médias et ont même déjà été encouragés par les pouvoirs publics.
Les informations de Justin Morin du service Police-Justice d'Europe 1.
Il est 6h07 en France métropolitaine et 13h07 au Japon.
Et justement, vous entendez juste derrière la très belle cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. C'était hier à Tokyo. La compétition est donc lancée. 22 disciplines, plus de 4000 athlètes avec des prothèses, des fauteuils souvent à la pointe de la technologie. Des innovations qui servent ensuite pour toute la population. Simon Rubin.
Aujourd'hui, presque toutes les prothèses grand public viennent d'un modèle qui a d'abord été créé pour le sport, pour le haut niveau et pour les Jeux paralympiques. Sur certaines prothèses de pied, par exemple, la marque française Chablose utilise une pièce en silicone qu'elle avait au début créée pour les athlètes. Les Jeux paralympiques sont un moteur pour innover. Avant d'étendre des prothèses pour le grand public, le tennisman fauteuil et porte-drapeau Stéphane Houdet en donne un autre exemple.
Je trouve que dans ma discipline, au départ, moi, autour du fauteuil, l'idée était d'avoir des roues extrêmement légères et ergonomiques pour la pratique du tennis. Mais ça sert à monsieur et madame tout le monde quand au quotidien, on doit enlever les roues de son fauteuil avant de monter dans la voiture. Si on a des roues qui sont plus légères, on sert la totalité de la population qui est concernée.
Et puis les sportifs sont aussi parfaits pour aider au développement des prothèses. Ils les testent dans toutes les conditions, à forte fréquence. Ils ont aussi un ressenti plus aigu de l'efficacité, de la praticité d'une pièce. C'est tout l'aspect de biomécanique qu'ils permettent de peaufiner, d'améliorer, pour ensuite démocratiser les instruments.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Et puis impossible de se quitter sans évoquer bien sûr la disparition de Charlie Watts, icône discrète des Rolling Stones. Celui, vous savez, dans le fond de la scène, dieu de la rythmique dont les baguettes ont marqué l'histoire du groupe. Charlie Watts avait 80 ans.
Up des Rolling Stones et la disparition de Charlie Watts. On y reviendra largement tout au long de cette matinale et notamment dans votre partition Omblin dans une dizaine de minutes. Merci Romain Oquet. C'était le journal de 6h.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports avec vous, Martin Lange. Et on commence avec l'information de la soirée. Le Real Madrid est passé à l'offensive pour acheter Kylian Mbappé.
Oui, les Madrilènes ont transmis hier une offre de 160 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour acheter la dernière année de contrat du prodige français. Alors Paris a fermé la porte, mais le Real devrait revenir à la charge d'ici la fin du mercato, le 31 août. Rappelons que s'il ne prolonge pas son contrat, le numéro 7 du PSG pourra s'engager gratuitement où il le souhaite le 1er janvier prochain.
Football toujours et Monaco joue son avenir européen ce soir.
Oui, la SM se déplace en Ukraine pour affronter le Shakhtar Donetsk. En jeu, une qualification pour la phase de groupe de la Champions League où les Monégasques espèrent rejoindre Lille et Paris. Et malgré la défaite à domicile au match aller, 1-0, ils y croient. Écoutez le défenseur Djibril Sidibé au micro de Frédéric Hélion.
L'objectif, c'est d'aller là-bas avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'agressivité, puis montrer le vrai visage de l'AS Monaco. On est confiant dans le sens où voilà, on sait que ce match-là, là, on n'a rien à perdre parce que voilà, on est des compétiteurs et puis on est prêt pour cette bataille.
Une qualification monégasque, qui pourrait être un bol d'air pour le foot français. Après une saison disputée presque intégralement à huis clos, le cabinet KPMG a chiffré les pertes liées à l'absence de supporters et le manque à gagner est colossal, Simon Rubin.
La Ligue 1, avec une fréquentation moyenne de 23 000 spectateurs par match, a perdu 48 millions d'euros. Le record en Europe, c'est pour l'Allemagne, le championnat qui est le plus fréquenté, avec 42 000 spectateurs par match en moyenne. La Bundesliga a perdu 157 millions d'euros pour ses 18 clubs. Et le cabinet KPMG, auteur de l'étude, annonce aussi que même pour la saison à venir, ça va être compliqué, ne serait-ce que parce que selon les pays, les règles changent. En France, en Angleterre, ça y est, le public revient. Mais en Espagne, on est qu'à 40 30% des capacités des stades. La Serie A italienne ne remplit ses enceintes qu'à 50%. Puis il y a d'autres mesures comme l'interdiction de la vente de nourriture, la vente de boissons, qui pourraient avoir un impact sur ces recettes.
Enfin, un champion du monde de retour en Ligue 1, le défenseur Adil Rami, libre de tout contrat, s'est engagé avec le promu 3.
Enfin, un peu de vélo pour finir.
Avec la victoire hier de l'Australien Michael Storer sur la 10e étape du Tour d'Espagne. Changement de leader au général, puisque le Slovène Primoz Roglic laisse le maillot jaune au Norvégien Odd Eking. Et à deuxième place, on retrouve un Français, un Guillaume Martin, très ambitieux. Écoutez.
Je suis deuxième du général. Vu ma première semaine de Vuelta, c'était un peu inespéré, bien sûr. Et maintenant, je vais m'accrocher à cette place et puis pourquoi pas essayer de gagner une place dans les prochains jours. Voilà, il y aura encore des belles choses à faire d'ici la fin de cette Volta et je vais tout donner.
Alors aujourd'hui, 11e étape, 133 km en Andalousie, propice aux échappées.
C'était le journal des sports avec Martin Lange. Merci Martin.
6h13 sur Europe 1 et cette question que l'on va se poser tous dans un instant, à quand remonte notre dernier don du sang? Les stocks sont au plus bas en cette rentrée, conséquence, vous le savez, du Covid et des vacances, mais aussi d'un manque de personnel réquisitionné pour tester et vacciner. On en parle dans une minute avec le directeur de la collecte à l'établissement français du sang. A tout de suite sur Europe 1.
5h, 6h30, Europe Matin.
6h15, votre matinale se poursuit avec l'interview actuelle et ce constat inquiétant. Nos hôpitaux manquent de sang. Les dons sont en baisse, une situation tendue renforcée par la crise sanitaire. Pour en parler, Julien, vous recevez ce matin Hervé Ménard, directeur de la collecte à l'établissement français du sang.
Bonjour Hervé Ménard.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on peut parler ce matin de pénurie de sang ?
De pénurie, en tout cas, on a des stocks très bas. On est au milieu de l'été, deuxième partie de l'été, et nos stocks sont très bas. On est en diminution constante depuis plusieurs semaines et on atteint des niveaux qui commencent à être très difficiles pour répondre aux besoins des établissements de santé.
Il manque combien de poches de sang actuellement pour que l'on retrouve un niveau acceptable ?
Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est retrouver 10 000 poches de plus dans notre stock pour le début du mois de septembre, pour pouvoir répondre aux besoins des hôpitaux, des établissements de santé qui augmentent de nouveau à partir de début septembre.
Et 10 000 poches, ça peut se collecter en combien de temps ?
10 000 poches, c'est ce qu'on fait en moyenne au cours de l'année en une journée. Mais ça veut dire que c'est 10 000 poches de plus. Donc il faut qu'on trouve une journée de plus au total d'ici la mi-septembre.
Il faudrait une semaine de 8 jours, quoi.
Voilà, c'est ça.
Quelles sont les régions les plus touchées, là où les stocks sont les plus bas, les plus alarmants ?
Alors, le besoin est assez uniformément réparti puisque la collecte se fait sur tout le territoire et on a une régulation nationale. La région la plus consommatrice est la région Île-de-France.
Les Antilles également, c'est une source d'inquiétude avec la crise sanitaire que l'on connaît ?
Alors c'est une source d'inquiétude, pas par leur consommation qui est sur des volumes qui sont bien inférieurs à celle d'une région comme l'Île-de-France, mais par contre tout le système de santé là-bas est sous très forte tension et nos équipes aussi sont sous forte tension, donc on les aide autant que nécessaire pour faire face à tous les besoins qu'il peut y avoir dans ces départements d'outre-mer en produits sanguins.
Ce qui rend votre tâche d'autant plus complexe, c'est que vous êtes en permanence en flux tendu, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais le sang, ça ne se conserve pas très longtemps.
Oui, ça fait partie de notre problématique, c'est-à-dire qu'à partir d'un don de sang, on fait 3 produits, des plaquettes, des globules rouges et du plasma, et les plaquettes ne durent que 7 jours, et les globules rouges durent 42 jours. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une venue continue des donneurs, et qu'on communique beaucoup, parce qu'on a besoin de renouveler continuellement ce stock. Et on ne peut pas non plus en faire trop parce que la durée de vie fait que ça ne servirait pas. Donc on est obligé d'avoir ce flux continu de produits.
Il y a des groupes sanguins en particulier qui sont en pénurie.
Alors aujourd'hui, on a besoin de tous les groupes sanguins. Mais les groupes sanguins O sont particulièrement intéressants puisqu'ils peuvent être donnés à des malades d'autres groupes, puisque le groupe O et O négatif notamment, c'est le donneur universel qui peut être donné à tout le monde. Donc on consomme plus de O qu'il n'y a de personnes O dans la population.
Cette situation tendue, elle dure depuis le début de la crise sanitaire. Comment s'organisent les hôpitaux, les soignants, quand les poches de certains groupes sanguins viennent à manquer ?
Quand il y a une tension qui se fait sur les stocks, on a des organisations et de la régulation qui se fait au niveau de l'établissement français du sang pour apporter très rapidement les produits. Donc la régulation nationale fait que les établissements de santé ne manquent pas de produits. En tout cas, c'est sa mission d'autosuffisance et il n'y a jamais eu de défaillance à ce niveau-là. Ce qui pourrait arriver, c'est qu'il y a une partie des activités qui consomment des poches de sang qui sont des activités programmées à l'avance. Donc ces activités programmées peuvent être décalées dans le temps si jamais on était amené à manquer de produits. Par contre, toutes les situations d'urgence, elles, qui ne se programment pas par définition, elles, seraient toujours alimentées en première intention avec les poches de sang qui sont disponibles.
Ce qui m'étonne, Hervé Ménrad, c'est que ça fait pourtant des mois et des mois que vous alertez, que vous lancez des appels aux donneurs. Pourquoi il n'y a pas de sursaut ?
Alors, quand on lance des appels, les Français et les donneurs répondent. Donc, ça nous permet de faire face à des situations critiques. On remonte la situation, mais comme on l'a évoqué précédemment, les produits ont une durée de vie qui est limitée. Donc, on constitue un stock, on remonte le stock. Et puis après, il y a une consommation et la pandémie nous apporte une difficulté et accentue les fluctuations. On a observé que pendant les périodes de déconfinement qui perturbent la vie des Français, la vie des donneurs, il y a une difficulté pour eux à se mobiliser et à trouver la disponibilité pour venir donner leur sang. Et donc, on a une diminution de la fréquentation. Et à ce moment-là, la diminution de nos stocks s'accentue et nous rajoute des situations de difficulté.
Vous manquez de donneurs, mais vous manquez également de personnel pour prélever. Quelle en est la raison ?
Alors aujourd'hui, dans le cadre de la pandémie, il y a une très forte demande au niveau des médecins, des infirmiers, infirmières dans le système de santé. Et on se retrouve, nous, de l'autre côté aussi, à avoir besoin de ces personnels-là. Et donc, il y a une tension sur le recrutement et qui accentue la difficulté pour recruter des personnels chez nous. Et ça nous amène aussi à avoir une difficulté pour programmer davantage de lieux de collecte ou de sites de collecte pour faciliter la reconstitution des stocks.
Je suis allé tout à l'heure sur votre site et j'ai vu que vous aviez 400 postes à pourvoir partout en France. C'est énorme.
Oui, c'est beaucoup. Et par exemple, sur les médecins, on en a à peu près 80. Sur les infirmiers ou infirmières, on en a 70. Donc, s'il y a des personnels qui sont intéressés par des carrières chez nous, il y a des possibilités intéressantes. Et donc, je les invite à se connecter sur le site EFS Recrute, où ils auront le détail des postes et des possibilités de carrière à l'établissement français du sang.
Dernier point, Hervé Ménrad, est-ce que les réticences d'une partie de la population concernant le vaccin contre le Covid jouent d'une certaine manière dans cette baisse des dons ?
C'est très difficile à évaluer. Alors nous, par contre, ce qu'on voit, c'est beaucoup de questions, donc c'est intéressant de pouvoir le rappeler, c'est que pour donner son sang, vous pouvez venir donner votre sang, que vous soyez vacciné ou non, et on n'a pas de demande vis-à-vis du pass sanitaire. Vous pouvez venir sur une collecte avec ou sans pass sanitaire pour donner votre sang.
Et puis, on peut donner son sang si on a déjà eu le Covid.
Tout à fait. Si on a eu le Covid, il faut attendre 14 jours après la disparition des symptômes avant de revenir pour donner son sang. Donc, voilà, c'est le petit délai de 14 jours qu'il faut respecter après avoir eu le Covid.
Merci beaucoup Hervé Ménrad d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir alerté sur cette baisse des dons et des stocks de sang. Je rappelle que vous êtes le directeur de la collecte à l'établissement français du sang. Donnez votre sang et très bonne journée à vous et à bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup, au revoir.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h22 sur Europe 1, l'actualité en temps réel avec le journal permanent d'Élise Dangean.
Joe Biden n'aura rien cédé à ses alliés. Le président américain confirme le retrait de ses troupes d'Afghanistan d'ici au 31 août. Il réclame aux talibans de ne pas entraver les évacuations qui se poursuivent à Kaboul. La haute autorité de santé recommande une dose de rappel du vaccin contre le Covid à toutes les personnes de 65 ans et plus, ainsi qu'à celles qui présentent des risques de forme grave. La campagne des troisièmes doses commencera le 1er septembre, d'abord pour les plus fragile. Le Maroc regrette une décision unilatérale et injustifiée alors que sa voisine l'Algérie a décidé de rompre leurs relations diplomatiques. C'était un bonhomme formidable. L'hommage et les larmes de Philippe Manœuvre sur Europe 1 pour le batteur des Rolling Stones, Charlie Watts, décédé hier à l'âge de 80 ans. Hommage à suivre dans le journal de 6h30.
Merci Élise Dangean. À tout de suite pour l'info sur Europe 1.
Elle nous enchante chaque matin, nous donne le rythme pour se lever du bon pied. Elle, Eh bien, c'est vous, Amblin Roche. Votre partition ce matin, vous la consacrez à Charlie Watts. Les Rolling Stones ont perdu hier leur batteur.
La première fois qu'il a joué aux côtés de Mick Jagger et du guitariste Keith Richards, c'était le 14 janvier 1963. À l'époque, raconte Keith Richards, on ne pouvait pas s'offrir ses services. La spécialité de Charlie Watts, c'est le jazz. Il fait partie du groupe Blues Incorporated. Mais il se laisse convaincre. Charlie Watts remplace le batteur Mick Avory, qui vient de déserter son tabouret. Il devient par la suite un membre des Kings. Alors voilà, les Rolling Stones sont prêts au complet, l'aventure commence.
Les frissons que ça donne, Gimme Shelter, de bon matin. La première passion, vous l'avez dit, Omblin, de Charlie Watts, n'est donc pas le rock, mais le jazz.
Voilà, et adolescent, il aime se faufiler dans les clubs de Londres. Il apprend à jouer à la batterie à l'oreille. « Je ne suis jamais allé dans une école apprendre à jouer du jazz », dit-il. Ce qu'il aime dans cette musique, c'est l'émotion. Musicien autodidacte, il tient parfois ses baguettes à l'envers et il développe son style inimitable simplement en regardant ses idoles jouer. Le batteur Roy Hines, par exemple, qu'il admire tant, il est connu pour avoir accompagné les saxophonistes John Coltrane et Charlie Parker notamment.
Alors pourquoi s'est-il lancé dans le rock ?
Eh bien parce que ça a fonctionné tout simplement et parce que les Stones en fin de compte jouent du blues. Dans le magazine Paris Match, il raconte qu'à l'époque en 1963, à tout juste 21 ans, il est graphiste et jongle entre deux boulots. Il joue du jazz le week-end uniquement et les Rolling Stones très vite deviennent de plus en plus populaires. Alors voilà, pas la peine de chercher un autre job, sa voix est toute tracée.
Et au sein des Stones, Charlie Watts, c'est le pilier hein, qui semble inébranlable.
Voilà un taiseux, un visage impassible, pendant que ses acolytes multiplient les divorces, les addictions, les arrestations, les folles engueulades. Lui, eh bien, il mène une vie sereine aux côtés de sa femme depuis toujours, de leur fille et de sa collection de pur sang arabe dans son haras du Devon en Angleterre. D'après le tabloïd britannique Le Mirror, pendant 50 ans de chaos, Charlie Watts a représenté le calme au milieu de la tempête Rolling Stones, aussi bien sur la scène qu'en dehors.
À l'écart de la tempête Rolling Stones, mais pas jusqu'à être totalement imperméable aux dépendances du groupe.
Effectivement, lui aussi est passé par une cure de désintoxication à l'héroïne et à l'alcool dans les années 80. Tout au long de sa carrière de rocker, Charlie Watts continue en parallèle à faire du jazz. Il enregistre plusieurs disques sous son nom et avec son quartet, il joue du boogie-woogie, une musique faite, dit-il, pour s'amuser, pour danser, pour passer une bonne soirée en tapant du pied.
Charlie Watts est le seul membre, avec Mick Jagger et Keith Richards, à figurer sur l'ensemble des albums studio produits par les Rolling Stones.
Oui, il avait déjà averti début août qu'il manquerait la tournée américaine du groupe à l'automne après avoir subi une intervention. Les Stones souffleront donc leurs 60 bougies sans lui l'an prochain. Charlie Watts à la batterie des Rolling Stones, Beast of Burden, enregistré en 1978 sur l'album Some Girls. Charlie Watts nous a quittés hier, il avait 80 ans.
Merci beaucoup Amblin Roche pour cette partition. Hommage au batteur des Rolling Stones, Charlie Watts.
Europe Matin.
6h27, il est temps pour nous, Julien, de nous dire au revoir et surtout de nous dire à demain.
Déjà ?
paraît.
Ça passe vite, hein.
Incroyable.
7h30 en votre compagnie, Ombline. On se retrouve dès demain, 5h, avec toujours le sourire comme celui qu'arbore en ce moment votre serviteur jusqu'à 9h, Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour.
Bah oui, les Stones, Charlie Watts, dès le matin, ça fait du bien. Alors j'ai appris qu'il s'était mis à la drogue très tard. Hein. Il avait attendu d'avoir 40 ans.
C'est incroyable.
Après une vie sans infopli jusqu'à cet âge-là.